chapitre 4. Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants, afin qu'ils soient ses serviteurs. » Et Élisée lui dit, « Que ferai-je pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Et elle dit, « Ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot d'huile. » Et il dit, « Va, demande pour toi, du dehors, des vases à tous tes voisins. Des vases vides, n'en demande pas peu. Et rentre, et ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases, et ôte ceux qui seront remplis. » Et elle s'en alla d'auprès de lui, et elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient les vases, et elle versait. Il arriva que quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Apporte-moi encore un vase. » Et il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Et elle s'en vint et le raconta à l'homme de Dieu. Et il dit, « Va, vends l'huile et paie ta dette. Et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. » Et un jour, il arriva qu'Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme riche. Et elle le retint pour manger le pain. Et il se trouva que, chaque fois qu'il passait, il se retirait là pour manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Faisons, je te prie, une petite chambre haute en maçonnerie. Et mettons-y pour lui un lit, et une table, et un siège, et un chandelier. Et il arrivera que, quand il viendra chez nous, il se retirera là. Or un jour, il arriva qu'il vint là, et qu'il se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son jeune homme, « Appelle cette Tsunamite. » Et il l'appela, et elle se tint devant lui. Et il dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, voici tu as montré pour nous tout cet empressement. Qu'y a-t-il à faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? » Et elle dit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Qu'y a-t-il donc à faire pour elle? » Et Géasi dit, « Eh bien, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Et Élisée dit, « Appelle-la. » Et il appela, et elle se tint dans la porte. Et il lui dit, « À cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. » Et la femme conçut et enfanta un fils à cette même époque, quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant grandit. Et il arriva qu'un jour, il sortit vers son père, vers le moissonneur. Et il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Et le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère. » Et il l'emporta et l'amena à sa mère. Il resta sur ses genoux jusqu'à midi et mourut. Et elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle ferma la porte sur lui et sortit. Et elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Et elle dit, « Tout va bien. » Et elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune homme, « Mène-la et marche. Ne m'arrête pas dans la course, à moins que je ne te le dise. »
Dans le récit précédent, nous avons suivi le roi Josaphat, roi pieux, mais faible sans doute. Nous l'avons suivi dans une association déplorable avec le roi d'Israël, avec la religion mondaine, et non seulement avec le roi d'Israël, mais avec le roi d'Édom, c'est-à-dire les pires ennemis de son peuple. Quelle déplorable association! Lorsqu'il en est ainsi, l'alliance que le croyant contracte pour des intérêts matériels ou des intérêts supérieurs, jugés tels, religieux, sociaux, ce ne sont pas les associés qui viennent au niveau du croyant qui s'associe de cette manière. C'est bien le contraire. C'est le croyant qui descend au niveau de ceux avec lesquels il s'associe. et il perd ce que la parole de Dieu appelle être le sel de la terre. Il perd sa raison d'être, son influence, son rayonnement. Le témoignage qu'il avait à rendre est ruiné. Et cela se termine par une confusion. On nous a dit qu'Élisée était mal à l'aise devant ses rois et devant Josaphat notamment, de qui il doit déplorer une semblable attitude. Et il a besoin de ce joueur de harpe. Il a besoin de ce qui le met en présence de Dieu, dans la présence de Dieu, pour écarter de lui les pensées qui l'assaillent et être en mesure, malgré tout, Dieu étant pitoyable, malgré tout étant en mesure d'apporter les ressources nécessaires à ces pauvres rois, à Josaphat notamment, faisant appel à la foi pour que des fosses soient creusées. À cet égard, nous aimons rappeler un verset que nous avons passé peut-être un peu rapidement au chapitre 3 au verset 11. Josaphat se reprend tardivement, étant mal à l'aise, sentant bien que le terrain sur lequel il se trouve est un terrain sur lequel il n'a pas d'assurance, il s'écrie, mais bien tard, n'y a-t-il point d'un prophète de l'Éternel ici? Et on lui répond, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et nous disons cela à titre d'encouragement pour ceux qui sont jeunes, notamment. On a parlé beaucoup d'Élisée du début de sa carrière et de ce service si humble qu'il rendait à l'égard d'Élie, verser l'eau sur ses mains. Mais ce début de carrière n'est pas oublié pour autant. Dieu ne le passe pas sous silence. Dieu ne le considère pas sans importance. Et le temps dans lequel nous sommes parvenus, c'est un temps de petites choses. Mais est-ce une raison pour les mépriser? Dieu ne méprise pas les petites choses. Et on rappelle ici le début de la carrière d'Élisée, il y a bien longtemps qu'il est sorti de cette position, mais on rappelle le début de sa carrière. Dieu le fait rappeler pour nous montrer qu'il n'est pas oublié et qu'il n'était pas sans intérêt. Mais maintenant Élisée va faire l'expérience et nous montre l'expérience faite que si nous sommes fidèles dans un petit service, Dieu peut l'étendre, Dieu peut lui donner plus d'importance à celui qui a, il sera donné davantage. Et si nous tournons deux pages, vous voyez au chapitre 8, et ceci serait le titre du récit qui est devant nous et que nous allons aborder cet après-midi. Dans le chapitre 8, il s'agit du roi Joram, un descendant d'Akab, et Géasi se trouve devant lui. Et au chapitre 8, donc au verset 4, nous lisons, le roi, il s'agit de Joram, parlait à Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, disant, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et à la fin de sa carrière, Élisée a le témoignage d'avoir accompli de grandes choses. Mais Dieu n'oublie pas pourtant le premier service humble qu'il rendait en versant les eaux sur les mains d'Élie. Mais plus tard, raconte-moi les grandes choses qu'Élisée a faites. Et nous voici devant un récit au chapitre 4 qui est rempli des grandes choses qu'Élisée va faire par la puissance de l'Esprit de Dieu.
Élie avait été envoyé chez une veuve à Sarepta. Il y a un certain parallélisme entre le récit d'Élie à Sarepta et celui de cette femme ici. Toutes deux n'avaient plus qu'un peu d'huile. Celle de Sarepta, un peu plus de farine. Mais la mise à l'épreuve de leur foi a été différente. Élie dit à la femme de Sarepta, « Fais-moi premièrement un petit gâteau avec cette farine et cette huile que tu as, et ensuite tu mangeras, toi et ton fils. » Dans la situation de dénuement où était cette femme, il fallait beaucoup de foi pour d'abord donner aux serviteurs de Dieu le peu qu'elle possédait. Mais il a été répondu à sa foi. Ici, c'est un peu différent. Cette veuve vient d'elle-même vers Élisée. Ton serviteur, mon mari est mort, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants. Une veuve qui a deux enfants à élever.
plus le père.
Et le créancier est venu. Qui est le créancier?
Nous avons bien qui est celui qui veut prendre les âmes des enfants. Par tant de moyens divers, que ce soit dans les écoles ou par les camarades ou par les études, quand les années y passent, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants pour qu'ils soient ses serviteurs. Qu'ils ne soient pas des serviteurs du Seigneur, mais des serviteurs du créancier. Lorsqu'Abraham est rentré de la défaite des rois, le roi de Sodome lui dit, « Donne-moi les âmes et prends les biens pour toi. Donne-moi les âmes, prends les biens pour toi. » Et c'est ce que l'ennemi cherche à faire, n'est-ce pas? Dans chaque famille. Bien sûr, la puissance de Dieu est là, il n'y réussit pas, heureusement pas toujours. Mais c'est la même chose, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants. Élisée lui dit, que ferai-je pour toi? Je n'ai plus de ressources. Ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un peu d'huile. Dis-moi ce que tu as à la maison. Oh, je n'ai qu'un peu d'huile. Cette huile qui nous parle du Saint-Esprit à travers la parole. J'ai encore quelque chose qui vient de Dieu. J'ai encore pour nous sa parole et son esprit. Et c'est cela qui va être le moyen de préserver les enfants. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce qu'il y a dans nos maisons? Est-ce qu'il y a encore la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a le pot d'huile? Est-ce qu'il y a cette action du Saint-Esprit qui peut opérer pour soutenir la veuve et surtout pour agir dans l'âme et la conscience des enfants? Je n'ai rien du tout qu'un pot d'huile. Et alors Élisée va mettre sa foi à l'épreuve. Va, etc. Va, va. C'était le refrain dans la vie d'Élie, va, va, va. Et le Seigneur dit à cette femme, va, fais cette chose impossible, rassemble beaucoup de vases vides et puis ils seront remplis. Et sa foi est mise à l'épreuve de cette façon-là. Élie dit, fais-moi premièrement un petit gâteau, pense d'abord aux serviteurs du Seigneur. Ici, eh bien, rassemble des vases vides, puis ils seront remplis. Mais il fallait la foi dans les deux cas, n'est-ce pas? Demander aux voisins des vases vides, aller chez eux, qu'est-ce que tu veux en faire? Oh, donnez-moi des vases vides, je vous les rendrai. Eh bien, elle a fait une expérience extraordinaire que nous allons voir.
On pourrait presque dire qu'il y a plus de différence entre ces deux cas, qu'il y a de ressemblances, et ces différences sont très instructives. Il y a une différence en particulier qui touche exactement ce que notre frère M. André vient de dire, l'épreuve de la foi. Dans le cas de la veuve de Sarepta, nous lisons dans le premier verset du chapitre 17, que Dieu avait dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quand il met à l'épreuve par le moyen d'Élie la foi de cette veuve, l'épreuve arrive dans cette forme, elle a si peu à faire de la nourriture, elle doit d'abord donner à Élie, et puis il y aura pour elle. Et la réponse à cela, vous est donné dans le verset 13 du même chapitre, plutôt le verset 14, excusez-moi. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne manquera pas jusqu'au jour où l'Éternel donnera de la pluie sur la face de la terre. Donc la durée exacte, précise de l'épreuve est fixée. Sa foi reçoit sa réponse déjà. Et ça va continuer de jour en jour. Et c'est une belle leçon pour nous de la dépendance journalière. Combien de fois nous l'avons entendu. Dans le cas d'Élisée avec cette autre veuve, le cas est très différent. Ce n'est pas elle qui partage les conséquences du jugement de Dieu qui souffre comme beaucoup d'autres, les conséquences de ce jugement. C'est une épreuve très personnelle, comme nous l'avons entendu. Sa foi est mise à l'épreuve d'une autre façon. Cette façon est de lui dire... Mais il est ajouté, n'en demande pas peu. Ce que je vois ici, c'est une leçon pour nous. Dieu n'est pas limité dans sa puissance. Quand nous avons un problème, un exercice, une difficulté, nous le savons. Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire. Il n'est pas limité dans ce qu'il veut faire pour ses enfants. Qu'est-ce qui le limite ? La petitesse de notre foi. Et ici, la limite, ce n'est pas une limite fixée comme dans le cas de l'autre veuve, la limite existe exactement et précisément dans la foi de cette veuve, ne demande pas peu, elle doit aller trouver autant de vaisseaux possibles. Et quand elle a toutes ses rangées de pots et de vaisseaux chez elle, elle verse de la fiole dans la première, dans la deuxième, de chaque vaisseau, quelle que soit sa taille, se remplit jusqu'au bord. La limite de ce que Dieu a fait pour elle était mesurée par la foi qu'elle a montrée. Deuxième chose qui pourrait être intéressante, comment est-ce que cette dette qui pourrait être considérée comme assez grande, puisque il avait la menace de prendre les deux enfants, les deux fils. Comment est-ce que cette dette pourrait être payée avec de l'huile? Le mot hébreu que nous trouvons ici, shelem, c'est le mot généralement employé pour l'huile de l'onction. C'est donc quelque chose qui avait de la valeur. Et quand il y avait cette assez grande quantité, la quantité n'est pas dite, mais elle a pris autant de vaisseaux, quand ces vaisseaux étaient remplis de cette huile précieuse, voilà pourquoi il y avait de l'argent pour payer sa dette. La mesure de ce que Dieu a répondu dans son besoin, le besoin qu'elle a étalé devant Élisée, était la mesure de la foi qu'elle a démontrée en allant chercher le vaisseau comme Dieu lui avait dit.
Nous aurons une série de récits qui vont nous montrer l'action d'Élisée vis-à-vis de ce résidu caché des 7000 qu'Élie n'avait pas su trouver. C'est une des toutes premières apparitions de ce résidu de 7000 fidèles. Mais quelle détresse! Une détresse qui frappe profondément d'Élisée. Aurait-il pensé que le service de bienfaisance vis-à-vis des serviteurs de Dieu eût été tellement négligé? Quelle misère il a devant lui, là. Les enfants d'un serviteur de Dieu qui sont voués à l'esclavage d'un créancier méchant. On a rappelé tout le sens profond qu'il y a là. Et on croit voir Élisée, le prophète, comme démuni. Que ferai-je pour toi? Que ferai-je pour toi? Et alors il se ressaisit. Dis-moi ce que tu as à la maison. La femme va répondre, ta servante n'a rien du tout dans la maison. Elle n'a rien du tout. Et on vient de nous l'exprimer littéralement, rien du tout qu'un pot d'huile. Juste de quoi faire une onction encore, mais rien pour payer une dette, et rien pour payer une si grande dette. Mais cette question d'Élisée, dis-moi, toi qui dis que tu n'as rien, dis-moi ce que tu as quand même. C'est la question que Dieu nous pose quand nous sentons démunis de tout et découragés, il vient nous dire, mais dis-moi ce que tu as quand même. C'est la question que l'Éternel pose à Moïse
en Exode 3 et 4, quand Moïse est venu au buisson ardent. Dis-moi ce que tu as dans ta main. Oh, regarde, un bâton de berger. Ah, voilà, le bâton, c'est ce qu'il fallait. Et ce bâton de berger sera le bâton de la délivrance pour faire traverser la mer Rouge et sortir de l'esclavage. Et ce bâton conduira le troupeau de Dieu pendant 40 années dans un désert. Matthieu 15. Combien avez-vous de pain? Dit le Seigneur à ses disciples. Oh, Seigneur, 7. Et en Matthieu 14, combien avez-vous de pain? 5. Oh, quelle insuffisance, quel peu de choses. Et les pains vont nourrir 5000 hommes, et il y aura 12 paniers de reste. Qu'avons-nous pour le Seigneur, pour le service du Seigneur? Nous qui si facilement disons, je n'ai rien. Elle ajoute pourtant qu'un pot d'huile. Mais le pot d'huile, c'est la ressource. C'est ce qu'il fallait. Va, cherche des vases et n'en demande pas peu des vases vides. Et les vases vont être la mesure de l'huile. Autant il y aura de vases, autant il y aura d'huile pour les remplir. Et l'huile sera la mesure qui remplira tous les vases. Aucun ne restera vide. On l'a rappelé, ce miracle est bien différent de celui que l'on avait vu à Sarepta. Ici, il y a une provision globale donnée et pour payer la dette et le surplus pour nourrir. À Sarepta, la scène est toute différente. Il nous est simplement dit, une fois le miracle accompli, le pot de farine ne s'épuisa pas, la cruche d'huile ne manqua pas, selon la parole que l'Éternel avait dite pour Élie, donc pendant une année. Il y avait à Sarepta chaque jour une pauvreté jamais supprimée, mais une pauvreté chaque matin réparée. Pourquoi cela? Parce que à Sarepta, Dieu ne voulait pas accomplir un miracle une fois pour toutes. Il voulait accomplir un miracle chaque matin, pour avoir une prière de reconnaissance chaque matin. Est-ce que dans chacune de nos journées, nous n'avons pas l'impression que chaque pas fourni pourrait être un désastre si la grâce de Dieu n'était pas là? Avons-nous cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ses soins, vis-à-vis de ses ressources, pour lui dire chaque jour, chaque matin, chaque soir, Seigneur, merci.
Comme l'a écrit l'un de nos devanciers, la pénurie de l'homme remplit les greniers divins. Il faut en effet sentir son dénuement complet, réaliser que le vase est vide pour faire l'expérience des ressources de la grâce divine qui peut les remplir. Ta servante n'a rien du tout, mais toutefois, bien qu'elle réalise qu'il n'y a aucune ressource en elle-même, qu'il y a quelque chose, si peu, mais quelque chose. Un pot d'huile. Nous sommes en effet frappés de voir combien la grâce de Dieu se plaît à multiplier le peu qui se trouve dans nos cœurs si nos cœurs se remettent au Seigneur et s'attendent à lui. Que de délivrance opérée par des moyens qui, humainement, étaient de la plus grande insuffisance. Gédéon avait peu de force. Il était compté au nombre d'un pauvre millier en Manassé. d'une petite famille. Mais quelle est la réponse divine? Va avec cette force que tu as. La grâce de Dieu va la multiplier et lui accorder de remporter les victoires. Si nous parcourons les instruments qu'ont employés les juges, ils témoignent tous de la faiblesse, qu'il s'agisse d'un aiguillon à bœuf, d'une mâchoire d'âne, d'autres instruments. Au regard de l'homme, ils sont tous insuffisants. Mais la grâce de Dieu emploie de tels instruments caractérisés par la faiblesse. Il a été évoqué ces scènes remarquables de la multiplication des pains dans l'évangile selon Matthieu précisément. Mais lisons ce que le Seigneur dit, alors que confession est faite de l'insuffisance. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons dans l'un des cas. Mais que dit le Seigneur? Apportez-les-moi ici. En eux-mêmes, ces 5 pains et 2 poissons ne peuvent que démontrer l'impossibilité de répondre aux besoins. Mais apportez aux pieds du Seigneur. Il se plaira à les multiplier, à les bénir, de telle sorte que non seulement les besoins seront satisfaits, mais il y en aura de reste. Quel encouragement! Nous sentons et nous sommes appelés à sentir notre faiblesse, notre insuffisance. Mais le Seigneur veut nous conduire à faire l'expérience de sa pleine suffisance. Faut-il venir à ses pieds? Il multipliera le peu. Nous ne voyons pas qu'il produisent l'abondance lorsqu'il n'y a rien du tout, mais le sentiment de la pénurie, de l'insuffisance, accompagné aussi d'un, ce qu'expriment ces vases vides, l'absence de prétention en soi-même, mais une attente confiance dans les ressources divines. Le Seigneur va répondre, il va multiplier, il va bénir, il y en aura de reste, non seulement pour payer la dette, mais pour vivre ensuite les jours qui vont suivre. Sur le plan prophétique, nous citons simplement que cette scène comptait au nombre de toute une chaîne de scènes concernant les fils des prophètes, nous rappelle aussi, ou nous parle par anticipation, des circonstances que connaîtront le résidu fidèle. Placé sous l'oppression du créancier, dont l'Antichrist ou l'Assyrien sont une figure. Ils connaîtront ce dénuement, cette pénurie complète. Mais la grâce de Dieu va répandre sur eux cette pluie de la dernière saison, cette huile précieuse qui va travailler dans leur cœur, produire par le Saint-Esprit premièrement la repentance, pour ensuite les arroser, si l'on peut dire, de toutes les grâces divines. C'est ce que nous avons dans cette huile qui est répandue, qui est donnée à flot, qui dépasse même la mesure de la foi, comme nous l'avons lu, comme nous l'avons entendu. Les vases manquent, mais ce n'est pas l'huile qui fait défaut. Mais nous connaissons ces passages en rapport avec le résidu dans le prophète Joël, où il nous est dit, entre autres, au verset 18e du chapitre 2, « Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays, aura pitié de son peuple, et l'Éternel répondra et dira à son peuple, « Voici, je vous envoie du blé et le moût et l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous celui qui vient du nord. » Et au verset 28, il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Après la repentance, après la réalisation qu'il n'y a rien en lui, ce résidu expérimentera les bienfaits de cette pluie de la dernière saison. Je répandrai de mon esprit sur vous.
Du récit depuis le verset 3, il nous est arrivé plus d'une fois de le considérer avec des moniteurs d'école du dimanche ou d'enfant du dehors. Demande pour toi du dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas peu. Si le Seigneur le met à cœur, on cherche à réunir des enfants du dehors ici pour leur parler du Seigneur Jésus. Mais voilà, on a le sentiment qu'on n'a qu'un tout petit peu d'huile. Et comment va-t-on apporter à ces enfants quelque chose qui puisse remplir leur cœur? Eh bien, tout d'abord, n'en demande pas peu. Ayez la foi que le Seigneur fera son travail. Qu'il s'agisse d'enfants de famille chrétienne, qu'il s'agisse d'enfants du dehors, rentre, ferme la porte sur toi et sur tes fils, verse dans tous ces vases et ôte ceux qui seront remplis. Elle s'en alla auprès de lui, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils, ceux-ci lui apportaient les vases. La veuve rentre à la maison, elle dit à ses fils ce que le prophète a dit. Alors les fils vont chercher les vases chez les voisins, peut-être la maman aussi, sans se préoccuper de ce que les voisins vont dire, mais enfin, on va tâcher d'en réunir pas peu. Et on aligne les vases vides dans la chambre, et on ferme la porte. Et comme le dit quelqu'un, ils sont trois dans la chambre, comme les trois jeunes hébreux. Mais Nebuchadnezzar dit, je vois un quatrième. Il y avait là une présence. Et la mère dit, eh bien, apporte les vases. Les garçons apportaient les vases, elle versait. Quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, apporte-moi encore un vase. On apporte un premier vase, et la mère verse un peu d'huile. Est-ce que ça va remplir ce vase? Et le vase est rempli, et on le met de côté, et l'autre fils apporte un autre vase, et on peut le remplir, et on le met de côté, et les uns après les autres. Mais apporte-moi encore un vase, ça va si bien. Il n'y a plus de vase. Le Seigneur a dit aux deux aveugles qu'il vous soit fait selon votre foi. Et si nous faisons trop souvent l'expérience que pas beaucoup de vases sont remplis, c'est peut-être que notre foi est en défaut. Mais dans le cas particulier, tous les vases ont été remplis. Quelle expérience extraordinaire dans cette petite chambre, sans doute très simple, cette veuve, ses deux fils, mais la puissance de Dieu était là. L'amour de Dieu était là. Le Saint-Esprit, figurativement, opérait. Et alors, elle retourne vers le prophète. Elle s'en vint, le raconta à l'homme de Dieu. Avec quelle joie elle est venue cette seconde fois. La première fois dans le dénuement et la tristesse, et cette fois dans la joie. Il a été répondu à sa foi. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette huile? Va, vends-lui, et paye ta dette. Et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera, si nous revenons au récit de la veuve. Il y a de quoi payer la dette. Le Seigneur, lui, a payé la dette. On dit, on l'a souvent répété, mais quelle est la différence entre la miséricorde et la grâce? Eh bien, cette histoire donne la réponse. La miséricorde paye la dette. Dieu a eu pitié de cette femme. De ces garçons qui allaient être pris par le créancier, la dette est payée. Mais la grâce, elle fait vivre, elle donne du surplus de ce qui restera, vous vivrez. La miséricorde paye la dette, mais la grâce enrichit. Et cette famille, cette jeune famille, a pu vivre du résultat de leur foi. Bien sûr, ça a été un miracle d'un jour, mais le résultat a été certainement jusqu'à ce que les garçons soient assez grands pour pourvoir aux besoins. Dieu y a pourvu. La grâce enrichit. Et alors, dans le domaine spirituel, il y a aussi des expériences profondes, celle de la conversion. Parlions hier de celle que nous appelons l'affranchissement. Si la grâce de Dieu opère,
ce n'est pas seulement un jour où le cœur est rempli de joie, mais cela se continue. Seulement comme pour la veuve de Sarepta, sous un autre aspect, il faut chaque jour que la provision soit renouvelée. Notre homme intérieur est renouvelé de jour en jour.
Ici, c'est une famille qui, ayant la porte fermée sur elle, éprouve la bonté, la puissance de Dieu s'exerçant pour elle. Nous avons bien des exemples de portes fermées dans la parole, et je voudrais simplement en citer trois. Tout d'abord, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26 du livre d'Ésaïe, il s'agit d'un peuple, qui est labouré, un peuple qui traverse de grandes difficultés. Et c'est Dieu qui vient s'adresser à lui, chapitre 26, le verset 20. « Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. » Un peuple invité par l'Éternel à rentrer dans ses chambres, à entrer là, non pas tout seul, mais avec Dieu, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Éprouver la présence, éprouver la puissance de Dieu. Un peuple, une famille, un peuple. Matthieu 6, un verset bien connu. Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, ayant fermé ta porte. Prie ton Père qui demeure dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. L'appel individuel, la prière pour un besoin pressant, la porte de la maison, la porte de la chambre est fermée. Là aussi, celui qui prie n'est pas seul. Le Père, qui voit dans le secret, est là. Il écoute, il va répondre. Acte 12. Pierre est dans la prison et toute une assemblée est en deuil. Comment pourra-t-il être délivré? Verset 11. Et Pierre étant revenu, lui dit: je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Une famille qui a la porte fermée sur soi, un peuple qui a fermé sa porte sur lui, un individu, un croyant qui ferme la porte sur lui pour prier, une assemblée ou l'expression d'une assemblée, priant là pour un pressant besoin. Et toujours Dieu a répondu.
Cet homme était connu du prophète parce que la femme, son épouse, lui dit: tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il y a donc des relations antérieures auxquelles cette pauvre femme peut faire appel. Certaine qu'Élisée se souviendra de son mari. Élisée ne nie pas qu'il en soit ainsi. Nous pouvons donc bien admettre que cet homme est mort jeune, puisque les fils sont encore appelés des enfants. Comment se fait-il, sur le terrain de l'Ancien Testament, qu'un homme jeune, fidèle, faisant partie du résidu pieux de ce peuple, connu du prophète, comment fait-il qu'il soit retiré de la scène à un âge si précoce, de manière si précoce? Or, David a déjà écrit une promesse à l'égard du juste, l'Éternel le gardera et le conservera en vie. Il semble bien qu'il y a une contradiction. Cet homme fait partie d'un résidu pieux, juste, et l'Éternel a dit par la bouche de David, le doux psalmiste d'Israël, l'Éternel le gardera en vie. Et voilà un père de famille jeune que Dieu retire. Contradiction apparente sans doute. Il y a, pour confirmer cela, le cas d'Ézéchias. Savons qu'Ézéchias a commencé à régner à l'âge de 25 ans et il a régné 29 ans. Il est donc mort à l'âge de 54 ans. Or, en enlevant 15 ans, nous arrivons, c'est bien clair, à l'âge de 39 ans, quand le prophète Ésaïe est envoyé lui dire « Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir ». À 39 ans, cas à peu près semblable à celui-ci, Ézéchias allait être retiré de la scène. Sur le terrain de l'Ancien Testament, toujours, Ézéchias verse beaucoup de larmes, se tourne vers la muraille et dit à l'Éternel ce que cette femme dit de son mari au prophète. « Tu sais que j'ai marché devant toi en vérité, que dans mon cœur il y avait le souci, le désir de te glorifier. Seigneur, n'auras-tu pas pitié de moi ?» Ésaïe n'est pas encore arrivé à la maison, qu'il doit retourner, l'Éternel étant ému, Dieu miséricordieux, plein de grâce, deux choses viennent d'être placées devant nous, doit retourner dire au roi Ézéchias, eh bien, l'Éternel ajoute 15 années à ta vie. Ici, Dieu n'a pas ajouté aucune année à cette vie. Très jeune, cet homme est recueilli. Mais les desseins de Dieu sont mystérieux. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que la foi a été trompée dans ce cas? Même si Dieu, pour des raisons qu'il ne nous donne pas, qu'il ne nous explique pas, agit de cette manière, y a-t-il de l'injustice ou de l'arbitraire ou de l'insouciance ou quoi que ce soit auprès de Dieu qui puisse être critiqué? Nullement. Dieu est un Dieu fidèle. Pour nous aujourd'hui, nous savons bien que nos bénédictions ne sont pas temporelles, ne sont pas sur la terre, de sorte que il arrive que le Seigneur enlève quelqu'un qui apparemment était encore si utile, comme cet homme jeune, père de famille. Pourquoi le Seigneur le fait-il? C'est demain que nous connaîtrons tous les secrets, toutes les raisons. Un cher frère d'ici pourrait souvent répéter aujourd'hui, c'est une terre de pourquoi. Demain, ce sera un ciel de parce que. Dieu nous montrera pourquoi il a agi ainsi à notre égard, en nous enlevant des êtres chers, sans que nous ayons à nous soustraire à la nécessité d'être exercés. Si Dieu agit de cette manière, il y a des raisons. Dans l'égard de cette veuve et de ses enfants, dernier mot, est-ce que Dieu n'a pas été, comme il le dira quelque part, un père et un époux pour la mère et un père pour ses enfants?
Cette scène dans laquelle nous trouvons d'abord la prière. Cette femme qui crie à Élisée. Et c'est bien, chers frères et sœurs, une ressource précieuse pour la famille et pour l'assemblée, la prière dans un temps de détresse. Le Seigneur se plaît à y répondre, selon ses moyens et en grâce. Remarquons que cette femme n'a rien dicté à Élisée de ce qu'il devait faire. Nous pensons aux sœurs de Béthanie. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ensuite, Élisée intervient. Que ferai-je pour toi? C'est un langage que nous le trouvons souvent dans la bouche du Seigneur Jésus, à l'égard de plusieurs. Il s'adresse aussi peut-être cet après-midi, dans cette salle, à une âme encore dans cette porte ou dans ces rochers. Que veux-tu que je te fasse? Alors, après la prière, il y a la réponse d'Élisée, et ensuite l'obéissance à ce que Élisée a dit. Prends des vases du dehors, première chose, n'en demande pas peu, rentre, ferme la porte sur toi, et sur tes fils, et il verse dans tous ses vases. Il y a donc une série d'étapes, une série de faits que cette femme va respecter dans l'ordre dans lequel Élisée les a donnés. Il y a donc une humble soumission, une humble obéissance. Et la bénédiction qui va découler résulte donc de la prière, de la réponse d'Élisée, pour nous de la réponse du Seigneur, et de l'obéissance à ce que le Seigneur nous dit de faire. Un petit fait, remarquez que c'est à la maman qu'Élisée a dit de fermer la porte. Et même si les fils sont assez forts et assez capables de transporter des vases vides et des vases remplis, c'est la maman qui ferme la porte. Puissions-nous en retirer aussi chacun une leçon, chez voilà, que ce ne sont pas nos fils et nos filles qui doivent fermer les portes de nos maisons, mais que c'est nous-mêmes qui avons reçu l'ordre du Seigneur pour fermer la porte de nos maisons sur tout ce que le monde voudrait y introduire. Tout ce qui est venu de l'extérieur dans cette maison, ce sont des vases vides. Je me pose la question, nous la posons chacun sous le garde du Seigneur, qui a-t-il dans nos maisons des vases vides dans lesquels le Seigneur va remplir quelque chose qui vient de lui, ou des vases pleins dans lesquels il ne peut plus rien mettre? Nous répétons donc en suivant ce fait si précieux, la prière, la réponse du Seigneur, l'obéissance, la bénédiction qui en découle, et ensuite, elle vient raconter à Élisée le résultat de cette obéissance, de cette bénédiction donnée. Tu m'invoqueras au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras.
Dans le paragraphe suivant, nous avons une autre maison, une autre famille. On n'est pas dans le besoin, c'est au contraire une famille où on dit on est à l'aise, il y a un domaine, il y a des serviteurs, une femme riche. Elle retint Élisée pour manger le pain. Et chaque fois qu'il passait, il se retirait là pour manger le pain. Qu'est-ce qui a amené cette femme de Sunem, de la tribu d'Issacar, dans le nord du pays, à inviter Élisée, prophète de l'Éternel? Cela ne nous est pas dit. Un certain intérêt. Mais quand Élisée y a passé quelques fois, « Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. » Il ne semble pas que le mari se soit rendu compte. Elle dit « Je connais. » Mais elle engage son mari, « Faisons, je te prie, une petite chambre haute en maçonnerie, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier. Et il arrivera que quand il viendra chez nous, il se retirera là. » Progressivement, si l'on peut dire, la lumière est venue dans cette maison. Zachée désirait voir Jésus. C'est Jésus qui le voit quand il passe sous l'arbre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Une place ici pour le serviteur de Dieu, et pour nous la même chose bien sûr, mais surtout pour le Seigneur. Faisons une petite chambre haute, un endroit où le serviteur puisse se retirer tranquille, où il puisse prier, et il le fera tout à l'heure d'une façon bien particulière. Une chambre simple, pourtant bien construite, en Orient, on ne construit pas tout en maçonnerie, c'est souvent simplement des branchages. Et on met tout ce qui est nécessaire, un lit, une table, un siège, un chandelier. Quand il viendra chez nous, il se retirera là. Il y a Élisée qui passe, et cela est répété plus d'une fois, Élisée passa par Sunem, chaque fois qu'il passait, c'est un homme de Dieu qui passe chez nous, quand il reviendra, mais il se retire aussi. Le serviteur de Dieu passe, il visite différentes familles, à l'œuvre du Seigneur, il visite diverses assemblées, ou celui qui a été appelé au loin dans l'œuvre du Seigneur, il passe, comme Jésus passait de lieu en lieu. Il a besoin de se retirer. Il a besoin d'être tranquille avec son Seigneur. Et il faut y penser aussi pratiquement. Si nous accueillons un serviteur de Dieu, c'est très bien de bien l'accueillir. Ici, c'est plutôt la simplicité, mais une simplicité suffisante qui est enseignée, mais lui laisser le temps de se retirer, aussi de fermer la porte et d'être seul avec son Seigneur. Et peut-être pour chacun de nous, dans un autre sens, nous passons, notre travail nous prend, nos occupations diverses. Il faut aussi un endroit pour se retirer, être seul avec le Seigneur, même si c'est quelques minutes. Une amie avait écrit une brochure, l'a souvent rappelé, un quart d'heure sur 96. Il y a 96 quarts d'heure dans une journée, 24 heures de 4 quarts d'heure. Un quart d'heure au moins avec le Seigneur, chaque jour. 1% pour le Seigneur, peut-être 2%. Mais ce moment avec le Seigneur, où l'on se retire, tranquille, pour l'écouter et ensuite lui parler. Parce que Moïse entrait dans le sanctuaire, dans les nombres, il écoutait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire. Et ensuite, il lui parlait. Et écouter la voix du Seigneur dans sa parole, exposer notre prière devant lui. Au matin, je placerai ma prière devant toi et j'attendrai un endroit pour se retirer tranquille, avoir affaire avec le Seigneur chaque jour.
Ce début de chapitre jusqu'au verset 37 est, comme nous le savons, d'une étonnante fraîcheur. On aime le lire et le relire à tous les âges. À tous les âges, on a quelque chose à apprendre. Le prophète est conduit là, si l'on peut dire, dans une petite sphère d'activité. Il semble un peu comme dans le livre de Ruth, qu'ici, dans ce chapitre, toute l'histoire d'Israël s'arrête. L'histoire même du prophète est suspendue pour un moment, pour que puisse s'entrouvrir la porte de cette maison de Sunem pour voir ce qui s'y passe. Plus que partout ailleurs, le prophète nous apparaît ici comme l'homme solitaire et qui va. Il est, on l'a vu, on le verra plus loin, celui qui s'embourse, soulage les pauvres, sans magasin nourrit une armée, sans pain nourrit une multitude, sans remède guérit des malades, nous connaissons ces belles paroles de notre frère Bellette. Ici, il entre chez une femme riche. Quel contraste entre la pauvre femme du début du chapitre et cette femme riche. C'est très rare que la parole nous parle de croyants aisés. Il y a ici cette femme de Sunem, il y aura Zachée dans l'Évangile, il y aura Joseph d'Arimathée, mais bien plus d'autres. Cette femme est riche, mais elle a beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Elle laisse l'homme de Dieu passer et repasser dans sa maison. Et puis vient un moment où elle a discerné que c'est un homme de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que, quand elle l'a discerné, que sa foi lui a montré qu'il parle le langage de Dieu, qu'à ce moment-là, elle va s'attacher à lui et tenir ferme au prophète. Nous arrivons à la seconde étape. Il ne va plus être un homme qui passe seulement. Il va demeurer. Mais dans quelles conditions ? La petite chambre haute. Remarquez quel discernement jette cette femme. Pas d'étalement dans ce mobilier de cette petite chambre des richesses qu'elle a. Pourtant, un homme de Dieu fondé, un homme de Dieu fidèle, méprise les vanités de cette terre. Elle en a conscience. Elle n'étale pas ses biens devant lui. Et puis peut-être sa pensée va plus loin. Mettre quelques richesses à la disposition même d'un homme de Dieu, ne serait-ce pas quelquefois lui tendre un piège? Risquer de changer le caractère de sa visite, de venir là parce que l'on est bien là. Elle reçoit un prophète en qualité de prophète, pour qu'il se sente chez lui, à l'aise, mais pas dans un milieu aisé. Et tout est là, dans le discernement de cette femme de Sunem. Et la suite du récit que nous verrons va nous montrer que dans cette maison d'une vraie fille d'Abraham vont se poser les mêmes problèmes que se posaient dans la maison d'Abraham même. Le manque d'enfants, l'enfant qui est donné, l'enfant qui sera repris, l'enfant qui sera rendu, c'est la vie d'Abraham qui reprend à Sunem.
Le discernement de cette femme, de cette Tsunamite, est en effet remarquable. Il est plus exercé que celui de la veuve de Sarepta, car pour cette dernière, il a fallu la résurrection de son fils pour qu'elle réalise que l'homme était véritablement un homme de Dieu. Ici, la Tsunamite a discerné qu'elle avait affaire à l'homme de Dieu, ce n'est pas une appréciation hâtive et superficielle. Elle résulte de passages réitérés de cet homme, puisqu'il est dit qu'il passait continuellement chez eux. Pas d'appréciation hâtive, mais fondée. Elle a discerné les vertus, les qualités, l'autorité morale, les caractères de cet homme qui faisait de lui un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Est-ce un homme exceptionnel, qui n'est pas soumis aux mêmes faiblesses, aux mêmes défaillances que nous? Nous avons déjà évoqué ce que dit Jacques au sujet d'Élie, homme de Dieu. C'était un homme qui avait les mêmes passions que nous. Donc, c'est un homme exposé aux mêmes défaillances. Du reste, Élie l'a montré. Mais c'est un homme qui connaît les caractères de Dieu, qui s'y soumet, qui dépend de lui, qui marche dans sa crainte, redoutant tout ce qui le déshonore, et qui est animé du désir d'être trouvé dans le chemin de son approbation. C'est un homme qui reflète en quelque sorte les caractères du Dieu auquel il appartient et duquel il dépend. Il connaît sa pensée, ressentant aussi la responsabilité, le devoir de la communiquer. Il n'a pas le droit de garder par devers lui la pensée de Dieu s'il est en devoir de la communiquer. Nous en avons un bel exemple dans la personne d'Agjéi, qui s'est acquitté du message qu'il avait reçu selon le message qu'il avait reçu de l'Éternel. L'homme de Dieu n'ajoute rien à la parole, ne retranche rien. Il s'acquitte de ce qui lui est confié. Peu importe son nom, nous avons des hommes de Dieu dans la parole dont le nom ne nous est pas donné. L'homme de Dieu est un canal, il n'est jamais une source. Il puise à la source. Il est responsable de transmettre la pensée de Dieu, qu'il s'agisse d'un message de grâce, d'un message d'avertissement ou de l'annonce d'un jugement. Il doit transmettre l'eau qu'il communique, lui étant le canal, mais la communiquant dans toute son intégrité, dans toute sa pureté. L'homme de Dieu vit donc en communion avec son Dieu. C'est l'homme dépendant. L'homme de Dieu, c'est donc un titre, un caractère, une vertu qui est liée à la dépendance, à l'obéissance, à la vérité. C'est l'homme qui sépare ce qui est précieux de ce qui est vil et qui fait de lui la voix divine. Jean le baptiseur peut dire qu'il est la voix qui crie dans le désert. C'est un canal, un porte-voix. Élie, au début de son ministère, les premiers versets du chapitre 17 du premier livre des Rois, nous est présenté comme la voix de l'Éternel. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Reflet de ce que nous lisons en Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. La séparation du mal, la sainteté, sont donc des caractères aussi fondamentaux qui confèrent à un serviteur celui d'homme de Dieu. On a évoqué avec raison le nombre de fois, 20 fois, de ce titre d'homme de Dieu lié à la personne et au ministère d'Élisée, 20 fois. Nous trouvons aussi d'autres serviteurs qui portent ce caractère dans la parole, et combien il est précieux d'entendre les dernières paroles de Moïse au chapitre 33 du Deutéronome comme étant celles non plus du législateur, mais de Moïse, homme de Dieu. L'homme qui vit dans la présence de son Dieu, qui sort de devant Dieu et qui s'achemine vers son Dieu, en acquittant entre ses deux pôles la tâche qui lui est confiée. Ce n'est pas une question d'âge. La preuve nous en est fournie dans l'épître de Paul adressé à Timothée, où il peut dire « Mets-toi, ô homme de Dieu, à Timothée, qui certainement est l'un des plus jeunes serviteurs mentionnés dans le Nouveau Testament, et c'est le seul serviteur qui est appelé homme de Dieu. » Ceci est frappant. Mais remarquons en outre que le caractère et le titre d'homme de Dieu, si précieux qu'il soit, sont liés à la fidélité. C'est un titre qui n'est pas acquis une fois pour toutes. Il y a des titres, il y a des faveurs, il y a une position qui est acquise au croyant et qui n'est pas conditionnée à sa fidélité. Nous sommes enfants de Dieu Et si nous sortons du chemin de l'obéissance, nous pouvons devenir des enfants désobéissants, mais demeurons néanmoins des enfants de Dieu. Nous sommes membres du corps de Christ, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, que l'on remplisse ou pas la fonction qui nous est départie dans le corps, nous pouvons devenir des enfants désobéissants, mais demeurons néanmoins des enfants de Dieu. Nous sommes membres du corps de Christ, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, que l'on remplisse ou pas la fonction qui nous est départie dans le corps, nous sommes un membre du corps de Christ comme croyant. Mais des caractères tels que ceux d'homme de Dieu ou de témoin sont conditionnés à la fidélité. Et remarquons que de tels caractères ne rendront pas ceux qui en témoignent des hommes populaires. La fidélité isole, la fidélité expose à la contradiction, à l'opposition. Paul a pu le dire, au terme d'une course combien bénie, un homme de Dieu remarquable, que tous l'ont abandonné, Luc seul est demeuré avec lui. Que dire du Seigneur? Le fidèle, le seul témoin fidèle, l'homme Dieu, a terminé sa course sans compagnon, voire plus encore sans consolateur. Cet homme passe donc à Sunem. Comme on vient de l'entendre, il est reçu comme tel. Et la réception qui lui est réservée, l'accueil qui lui est fait, est le résultat du discernement spirituel de cette femme, qui, en effet, réalise qu'il doit être reçu, d'une part, avec la dignité que requiert le titre qui est porté, qui est invoqué sur lui, mais les traites du serviteur ne doivent pas être orientées par le confort qu'il rencontre. Combien il est frappant de voir la dignité de cette femme. Et nous aurons l'occasion de réaliser, si nous poursuivons le sujet, la grâce de laquelle elle va être l'objet. N'avons-nous pas comme une anticipation dans cette scène du passage du Seigneur au terme de son ministère terrestre à la maison aimée de Béthanie? Il aimait à venir là. Il y était reçu. Sa présence était savourée, la communion était goûtée, à Béthanie comme à Sunem, avec lui on mangeait le pain.
Dans le début du paragraphe, il est dit, il semble bien que c'est lors du premier passage d'Élisée dans l'endroit de Sunem, elle le retint pour manger le pain. Cette femme est empressée dans l'hospitalité. Elle a saisi l'occasion. Parce que c'est un principe général et sans doute qui devait être déjà dans l'Ancien Testament une chose à laquelle on souscrivait. Parce que c'est un principe que nous trouvons dans l'Écriture. Et le Seigneur le précise ainsi dans l'Évangile selon Luc, « Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant de ce qui vous sera offert de leur part, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. » Alors cette femme, grâce à son empressement, dans l'hospitalité, va conserver ce privilège de recevoir chez elle cet homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle connaît comme le prophète sans doute, mais qu'elle va apprendre à connaître. Mais elle aura le bénéfice de pouvoir le recevoir ultérieurement chez elle, car elle a été la première dans cet empressement. Elle fait penser à une femme du Nouveau Testament qui, à l'égard de l'apôtre, paraît être celle qui était la plus empressée, dont les affections étaient engagées peut-être davantage que son mari. Il s'agit de Priscilla, dont le nom est cité trois fois, en premier lieu, alors que son mari aura la citation en premier lieu pour des choses qui relèvent de l'administration, de l'autorité. Mais lorsqu'il s'agit de l'empressement, de l'affection, du dévouement, c'est elle qui est citée la première. S'agit-il d'exposer son coup pour l'apôtre, c'est elle qui est citée la première. Eh bien, cette femme, va donc connaître la joie de recevoir cet homme, et au fur et à mesure qu'elle l'aura sous son toit, elle va faire la découverte que c'est un saint homme de Dieu. Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu. Quel bénéfice pour elle, et quelle leçon aussi pour tout serviteur, quel qu'il soit, je connais que c'est un saint homme de Dieu. Élisée n'a pas seulement un don remarquable, mais c'est un homme qui a aussi le caractère moral qui répond à ce don.